Bonjour à tous. Un grand merci à Anne-Marie de nous avoir présenté le sel et le projet de cette année. Et merci à Bénédicte pour ton témoignage. Je vous invite à la prière pour ce temps de prédication. Notre Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui est à l'œuvre. Tu es à l'œuvre parmi les populations qui sont éprouvées par la pauvreté. Et tu nous demandes de contribuer à les aider. Merci parce que en cela, tu es à l'œuvre aussi. Tu es à l'œuvre dans notre vie à chacun. Dans la vie de Bénédicte, nous l'avons entendu, mais dans notre vie aussi, à tous ici présents, dans la vie de l'Église, qui accueille de nouveaux membres et nous en sommes ravis. Tu es à l'œuvre dans notre cœur, et à chaque fois que nous lisons ta parole, tu es à l'œuvre pour nous changer, pour nous enseigner, et nous te demandons encore, l'action de ton esprit. Pour que nous puissions continuer à être édifiés par les uns et les autres, et avant tout par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Alors, il y a quelques années, j'ai assisté à une rencontre de pasteurs, enfin, pas que de pasteurs, mais une rencontre avec des pasteurs, avec des responsables d'associations, des responsables d'églises, de différentes unions d'églises. Et on en est venu à discuter d'aide sociale et de témoignage de l'Évangile. Et à un moment donné, dans cette réunion, l'un des responsables présents a dit qu'il n'était pas favorable que l'on parle de l'Évangile aux personnes qui sont aidées. Il a dit « Il ne faut pas profiter de la position de faiblesse des gens que l'on aide » pour leur présenter l'Évangile. Il ne faut pas profiter de la position de faiblesse des gens que l'on aide pour leur présenter l'Évangile. Et cette parole m'a fait beaucoup réfléchir. Lorsque nous aidons une personne en difficulté et qu'en même temps nous témoignons de notre foi, est-ce que nous profitons de la faiblesse de cette personne ? Je ne pense pas. Et j'ajouterai qu'il ne devrait jamais y avoir de profit personnel à annoncer l'Évangile. Si une personne devient chrétienne et vient fréquenter l'Église, je serai évidemment très heureux. Mais je ne devrais jamais voir cela comme un profit. Et si cette personne devient chrétienne et choisit d'aller dans une autre Église fidèle aux Écritures, je devrais être tout autant heureux. Nous ne sommes pas une entreprise qui cherche de nouveaux clients. Et les autres églises ne sont pas des concurrents. Nous sommes une église qui accueille tous ceux que le Christ appelle à lui, à travers sa parole et à travers le témoignage de sa parole. Cela dit, nous devons faire attention à la manipulation. Il y a des personnes en difficulté psychologique, ou des personnes âgées qui n'ont plus trop le sens du raisonnement. Et évidemment, nous ne devons pas les pousser à faire des choses contre leur volonté. Je pense aussi que si nous conditionnons notre aide, ce n'est pas approprié. Imaginons que nous allons en ville pour distribuer de la nourriture aux sans-abri et que nous leur disons « Nous vous donnons de la nourriture, mais en échange, vous venez à l'église. » Là, je trouverai que ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque nous faisons le bien autour de nous, nous le faisons aussi en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, en tant que témoins. Il ne s'agit pas de marteler l'Évangile, ni de sortir des discours appris par cœur de manière artificielle. Il s'agit d'être authentique, de refléter naturellement qui nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu. nous ne devrions pas chercher à tout prix de convaincre l'autre, mais nous ne devrions pas cacher notre foi non plus. Alors, afin d'aller plus loin dans notre réflexion, nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Tous les ans, nous participons à la journée du sel, celle qui signifie service d'entraide et de liaison. C'est une association, comme Anne-Marie l'a dit, qui vient en aide aux populations pauvres un peu partout dans le monde. Et cette année, le texte de prédication proposé par le sel pour le culte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, les versets 1 à 4. Il s'agit de la guérison, ou plutôt la purification d'un lépreux. Alors ça marche pas. Vous pouvez juste mettre passer la diapo du coup. Merci. Matthieu 8, 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, donc en fait c'est au début de l'évangile, c'est au début de l'évangile, dans le premier tiers de l'évangile selon Matthieu, et donc il vient d'enseigner sur la montagne, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors, d'après le document fourni par le sel, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus, accueillir notre prochain, l'écouter, l'aider et l'accompagner. Je suis totalement d'accord avec cet encouragement qui est tiré du texte. Cela dit, j'aimerais ce matin aborder le texte sous un angle complémentaire, en me concentrant aussi sur ce que Jésus fait et que nous ne pouvons nous pas faire. Commençons par la situation initiale du malade. C'est mon premier point. Et comme ça ne marche pas, lorsque je dis premier point, peut-être vous passez au premier, et quand je dis deuxième point, passez au deuxième, et trois, quatre. Merci beaucoup Sylvain et Aïna. La situation initiale du malade, eh bien le lépreux est exclu, et Jésus l'accueille. À l'époque de Jésus, la lèpre désignait plusieurs types de maladies de peau et non pas seulement la lèpre en elle-même, bien qu'elle désignait aussi la lèpre en elle-même. La personne qui en souffrait était doublement peinée. Non seulement elle subissait cette maladie visible largement, mais en plus elle était exclue de la société. La lèpre est contagieuse, mais ce n'est pas seulement pour cela que les malades étaient exclus. C'était aussi une question de pureté rituelle. Les lépreux étaient déclarés impurs vis-à-vis de la loi de Moïse. Ils ne pouvaient plus être approchés par les gens du peuple. Ils ne pouvaient plus se rendre au temple. Ils devaient vivre isolés. Pendant les périodes de confinement, en 2020 et par la suite, nous avons vécu des périodes d'isolement. Et actuellement, nous vivons une période de crainte. Dès qu'une personne tousse à côté de nous, on se demande si c'est le Covid. Dès qu'une personne éternue ou se mouche, on n'est pas tranquille. On a le Covid en tête. Pour le lépreux, c'était encore pire. Ils étaient identifiés et on en avait peur 24 heures sur 24. Selon la loi de Moïse, décrite dans le livre du Lévitique, les gens qui avaient des maladies de peau devaient être isolés tout le temps de leur maladie. Et si c'était la lèpre, elle était considérée comme incurable. Donc ce temps d'isolement pouvait durer toute leur vie. Le lépreux de notre texte est un exclu, mais Jésus l'accueille. Au verset 2, l'homme s'approche et Jésus ne court pas en fuyant, Jésus se tient devant lui. Ces détails nous invitent à voir en Jésus celui qui accueille même ceux qui sont indésirables. Il accueille tout le monde, même les exclus. Peut-être vous avez déjà eu ce sentiment d'être exclu pour une raison ou une autre. Jésus n'est pas dans l'exclusion, il est dans l'accueil de tous. Pourtant, on l'accuse souvent d'exclure. On accuse par exemple la Bible de propager un discours exclusif, comme quoi le salut et la grâce de Dieu ne seraient que pour une certaine catégorie de personnes. Mais si l'on regarde la Bible, Jésus était le plus inclusif de tous les religieux de l'époque. Il est même plus inclusif que tous ceux qui se revendiquent comme étant inclusifs. Seulement, Jésus ne force personne. Et cela rejoint ce que l'on disait au début. Jésus ne nous manipule pas. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui sincèrement. Mais est-ce que tout le monde veut venir à lui? Jésus est bien l'envoyé de Dieu, envoyé pour l'humanité. Dans le texte, Jésus était là et le lépreux s'approche et il se prosterne. Il y a une démarche de la part du lépreux. Alors la démarche première, c'est celle de Jésus qui vient dans l'humanité, qui vient se rendre présent. Mais il y a aussi la démarche du lépreux. C'est mon deuxième point. Le lépreux se prosterne et Jésus le touche. Cet homme a une certaine conscience de la puissance de Jésus. Il l'appelle même Seigneur. Il est vrai que le mot Seigneur, en grec, peut aussi se traduire maître ou tout simplement monsieur. Mais en traduction, lorsque on veut traduire un mot, il y a souvent plusieurs possibilités et on doit donc regarder le contexte. Dans le contexte, l'homme est à terre. Il se prosterne. Il est certainement à genoux et incliné, dans une position d'humilité. Il sait donc que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Et il y a aussi cette phrase qu'il prononce au verset 2. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce n'est pas une simple demande, c'est une confession. Il confesse que Jésus a le pouvoir de le purifier. Ainsi, lorsque le lépreux l'appelle « Seigneur », il le considère bien comme étant son Seigneur, l'envoyé de Dieu. Et je me dis que si cet homme était si réceptif à la voix de Dieu, si cet homme avait une telle foi et une telle espérance, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir lui-même. L'épreuve l'a rendu humble. Sa maladie l'a poussé à se tourner vers le seul qui soit capable de le purifier. Autrement dit, sa position de faiblesse lui a donné une certaine lucidité sur son état, sur son besoin de Dieu, de Jésus. Je ne dis pas que toutes les personnes éprouvées ont cette lucidité, ni que les personnes qui vont bien ne l'ont pas. Mais je constate que souvent, l'épreuve nous rend réceptifs à Dieu d'une manière différente, peut-être plus intense. La Bible nous enseigne que c'est lorsque nous nous reconnaissons comme faibles, que la force de Dieu peut se manifester en nous. Comment nous considérons-nous ce matin? Y a-t-il que les pauvres, que les éprouvés qui sont faibles? Finalement, les plus faibles ne sont-ils pas les plus forts? Ceux qui n'ont pas besoin d'aide? Ne faut-il pas beaucoup de courage, beaucoup de force pour reconnaître notre impuissance? Ces réflexions m'amènent à me demander si finalement, lorsque j'aide quelqu'un, est-ce que je le considère comme dans une position de faiblesse? Mon prochain que j'aide est-il plus faible que moi? Ne suis-je pas au moins aussi faible que lui devant Dieu? Car lui, comme moi, avons tout autant besoin de la grâce de Dieu. Celui que j'aide et moi-même, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Le lépreux s'est prosterné et il a confessé sa foi. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Que fait Jésus à ce moment-là ? Il le touche. Le narrateur insiste sur ce point. Jésus étend la main, dit le texte, et le touche. L'intouchable est touché. Par ce geste, les religieux considéraient que Jésus se rendait rituellement impur. On ne devait pas toucher un lépreux. Mais Jésus l'a fait en signe de communion, en signe de bienveillance et d'accueil inconditionnel. Et ce geste est accompagné d'une parole au verset 3. « Je le veux, sois pur. » C'est mon troisième point, le lépreux est purifié. Jésus l'a bien voulu. Et le narrateur précise que aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le verbe purifier va au-delà de la guérison. L'homme est réintégré dans la société. Il peut à nouveau être en communion avec les siens. Il peut maintenant se rendre au temple. Le miracle de Jésus est plus qu'une simple guérison. Jésus a restauré cet homme dans tous les domaines de sa vie. Et au nom de quoi Jésus a-t-il accompli cette purification ? Au nom de lui-même. C'est parce que Jésus l'a bien voulu. Il dit bien « Je le veux, sois pur ». Cette parole qui s'est accomplie immédiatement nous en dit long sur sa personne. Jésus agit en notre faveur, non pas parce que nous le méritons, non parce que nous nous apitoyons sur notre sort devant lui, mais parce qu'il le veut. Le lépreux l'avait d'ailleurs bien compris. Il ne s'est pas approché de Jésus avec un long argumentaire. Il n'a pas mentionné une liste de raisons pour lesquelles Jésus devrait l'aider. Il s'est prosterné en confessant que Jésus avait le pouvoir de le purifier s'il le voulait. En purifiant cet homme, Jésus a montré qu'il était le Messie et qu'il était Dieu. Quelques versets plus loin, au verset 17, le narrateur précise que Jésus a fait ses miracles en conformité avec ce que le prophète avait annoncé, le prophète Ésaïe. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. L'objectif du narrateur, dans tout l'évangile, c'est de nous montrer que Jésus est bien le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Après cette guérison, Jésus demande quelque chose d'étonnant à l'homme guéri. Verset 4. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » C'est mon quatrième point. L'homme purifié devient un témoin particulier. Jésus l'a envoyé. Il ne doit pas parler de cette guérison. Il ne doit en parler à personne, sauf au prêtre, afin que cela serve de témoignage. Son témoignage, et c'est un peu étrange, mais c'est ce que Jésus demande, son témoignage consiste à témoigner à certains, mais pas à d'autres. Comment le comprendre ? À l'époque de Jésus, le peuple attendait un Messie politique et un Messie faiseur de miracles. Mais Jésus n'est pas venu avant tout pour cela. Les miracles ne sont que des signes. Et comme le mot signe l'indique, le signe signale quelque chose. Les miracles ne sont que des signes, signes que Jésus est Dieu. Le but ultime de la venue de Jésus, c'est le salut des nations, c'est le pardon des fautes de l'humanité, c'est le but de la venue de Jésus. Les miracles signalent que Jésus est le Messie, mais le Messie venu pour apporter le salut de Dieu. Si l'homme guéri avait témoigné au peuple, il aurait conforté leur vision erronée du Messie. Le peuple voyait Jésus comme un faiseur de miracles et comme un progressiste, un maître juif, un rabbi, qui se permettaient de transgresser les codes religieux de l'époque. Par exemple, il touchait les lépreux. Il guérissait le jour du sabbat. Ce n'était pas en conformité avec ce qu'enseignaient les religieux de l'époque. Par ailleurs, les autorités religieuses attendaient un messie politique et un messie moraliste, dur, strict, un messie punisseur. Un tel messie ne pouvait pas toucher un lépreux, ni guérir le jour du sabbat. Si l'homme ne devait pas témoigner tout de suite au peuple, c'était pour qu'il n'ait pas une vision erronée du messie. Et s'il devait témoigner auprès des religieux, c'était pour leur montrer que le messie est bien l'homme qui touche les lépreux, et le messie est bien l'homme qui guérit le jour du sabbat. Dans les deux cas, l'envoyé de Dieu ne correspond pas aux attentes des gens. Le Messie n'est pas un Messie selon nos attentes, mais selon les promesses des prophètes. Jésus est avant tout venu porter mes péchés. Et c'est ce que précise le narrateur, verset 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Jésus est venu pour me transformer à son image, pour me sauver, me purifier, afin que je puisse être, me tenir dans la présence de Dieu. L'homme purifié a pu aller au temple, symbole de la présence de Dieu. Alors pour conclure, comment ce texte nous invite à aider notre prochain? Évidemment, nous sommes invités à être attentifs à ceux qui sont exclus à cause de leur isolement. Ceux qui sont exclus à cause de leur statut social, ceux qui sont exclus à cause de leur pauvreté. Nous sommes invités à agir comme Jésus, accueillir, écouter, aider, accompagner. Mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas faire tout ce que Jésus fait. Nous ne pouvons pas faire tout ce que Jésus fait. Nous ne pouvons pas restaurer les gens dans tous les domaines de leur vie. Nous ne pouvons pas les connecter à Dieu par nos propres capacités. Nous ne pouvons pas les sauver de leurs fautes. Nous ne pouvons pas leur donner la vie éternelle. L'aide sociale est très importante. Mais ce n'est qu'une infime partie de l'aide dont les gens ont besoin. Nous devons nous y consacrer, à l'aide sociale, avec la direction de Dieu, c'est certain. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus peut le faire. Nous sommes donc invités, avant tout, à amener les gens à rencontrer le Messie. C'est une raison qui doit nous pousser à témoigner du Christ à tous, aux pauvres et aux riches. Vis-à-vis de Dieu, tout le monde est dans une position de faiblesse, même nous. Lorsque je témoigne à mon prochain, je suis un faible qui témoigne à un autre faible. Je le fais pas pour moi, je le fais pour lui et pas pour un quelconque profit. Que le Seigneur donc nous guide dans notre manière d'aider notre prochain. Faisons-le par amour pour l'autre et surtout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, tu nous invites à agir comme toi, effectivement, à nous soucier de ceux qui sont exclus à cause de leur pauvreté, à cause de leurs difficultés, leurs maladies. Tu nous appelles à suivre ton exemple. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Mais le texte de ce matin nous rappelle aussi que nous ne pouvons pas restaurer les gens comme toi tu le fais. Notre prochain a besoin de l'aide que nous pouvons lui apporter, que nous apportons en ton nom, mais notre prochain a besoin d'être restauré entièrement par toi. Et c'est pour cela que tu nous invites non seulement à aider, mais aussi à à témoigner. Aide-nous à le faire en toute authenticité, non pas pour chercher un profit, non pas pour profiter de qui que ce soit, mais par amour pour notre prochain, et parce que tu nous le demandes, parce que nous voulons te glorifier par notre manière d'être, par notre manière d'aider notre prochain, par notre manière de vivre. Merci parce que ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu peux le faire. Et merci parce que tu accueilles chaque personne qui vient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite